Il y a aussi eu Kate Porter, tué par l'ICE le 31 décembre 2025. Il avait 43 ans, père de 2 enfants. Il a été abattu par un agent de l'ICE le soir du Nouvel An à Los Angeles, devant son immeuble. L'agent de l'ICE n'était pas en service ce soir-là. Denis Cabrera Rodriguez, arrêté par l'ICE le 26 novembre 2025. C'était un artiste cubain de 33 ans et il attendait la réponse à sa demande d'asile politique déposée aux États-Unis et en cours de traitement. Le 26 novembre, il est arrêté par l'ICE sans aucun motif et envoyé au centre de détention de Chrome en Floride. Donc les pouvoirs de l'ICE, cette police fédérale, ont été démultipliés par Donald Trump. Son budget a explosé. Tout comme ces lieux d'intervention est désormais étendu jusqu'aux écoles, aux hôpitaux et aux lieux de culte. Les méthodes de l'ICE s'apparentent aujourd'hui à des opérations paramilitaires. Et face à une police qui traque, arrête, enferme et tue, il est indispensable de continuer de se mobiliser, de manifester, de protéger les personnes ciblées. La résistance n'est plus une option, c'est une obligation. Et nous, en France, on peut signer une pétition sur le site d'Amnesty qui s'appelle « Halte à la violence des agents de l'immigration aux États-Unis ». Donc, je vous lis le texte de la pétition, c'est assez court. « Les agents de service de contrôle de l'immigration et des douanes, l'ICE, commettent de graves violations des droits humains sans être punis. Ils arrêtent, frappent et expulsent des personnes de façon injuste et ont même tué des concitoyens. » Depuis novembre 2025, une opération appelée Metro Surge a été lancée dans le Minnesota où plus de 3000 agents ont été envoyés sur le terrain. Ils ciblent particulièrement les populations immigrées et utilisent une force excessive, y compris des tirs mortels et des arrestations violentes. Ils reprennent les noms des victimes, donc je vous les ai dit tout à l'heure, je vais juste redire les noms: Alex Preti, Liam Conero Ramos, l'enfant de 5 ans, Destiny Jackson et sa famille, gazés le 14 janvier dans leur voiture avec un bébé de 6 mois inconscient, Nashra Ahmed, arrêtée le 14 janvier à son domicile et frappée alors qu'elle tentait de présenter des documents prouvant sa citoyenneté américaine. Et donc, il reparle d'Alex Preti et de René Good. Donc, ces exemples montrent que les droits humains sont piétinés et que la militarisation de l'application des lois sur l'immigration est dangereuse et injuste. Signez cette pétition pour demander à la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, de mettre fin à la militarisation de l'application des lois dans le Minnesota et l'ensemble des États-Unis et de faire cesser l'utilisation des expulsions et détentions massives et du profilage racial dans le cadre de l'application des lois relatives à l'immigration. Voilà. Donc si vous pouvez faire quelque chose pour vous mobiliser, c'est signer cette pétition, puisque votre signature, c'est un pouvoir.
Tout à fait. Et donc, c'est sur le site Amnesty avec un y.fr. Ne pas hésiter à aller consulter ce site.
Je vais continuer, parce que c'est vrai j'ai vu un article sur Amnesty, bien entendu, où il y a un résumé de tout ce qu'on dénonce sur la politique des États-Unis. La dernière fois à la radio, Dominique vous a parlé de la problématique médicale. Moi, je vous ai parlé il y a quelque temps de la problématique au niveau de la justice. Et donc, cet article s'appelle 5 preuves de la dérive autoritaire des États-Unis. Et je l'ai trouvé vraiment bien fait parce que c'est quand on met les choses bout à bout, on comprend comment ce pays est en train de virer en pays autoritaire. Donc, depuis des années, Amnesty recense les pratiques autoritaires à travers le monde. Et le schéma qui est à l'œuvre aux États-Unis nous est malheureusement trop familier. Le pays multiplie les mesures qui concentrent les pouvoirs, sape l'état de droit et viole les droits humains. Les attaques répétées depuis un an contre le droit international et contre le multilatéralisme signent l'avènement d'un nouveau désordre mondial où la loi du plus fort semble faire loi. Donc, il y a un document qui est sorti. Alors, Didier, tu pourrais peut-être lire le nom. Enfin bon, c'est aux États-Unis, c'est « Ringing the Alarm Bells ». Ah, déjà sonner l'alarme.
Sonner les cloches d'alarme.
Voilà, rising authoritarian practice and erosion of human rights in the Human State. Bon, oui. J'ai à peu près traduit la...
J'ai compris ce que tu voulais
l'action,
dire.
Bah, j'ai un accent français, comme ça, c'est pour que les gens ils comprennent plus facilement mon anglais.
J'avais deviné.
Voilà, donc il y a un document, donc c'est pris à par rapport à ce document-là. Donc, le premier point, c'est la police. Donc, je ne vais pas en rajouter, puisque Claire Lise vient de faire cet article sur l'ICE. Juste des noms. Donc, au début de son mandat, Trump avait comparé, donc la Maison Blanche, on va dire ça, comparé les personnes étrangères à des Pokémon à attraper. Donc, c'est quand même tout à fait sympathique comme image. Et le projet, c'est 1 million de personnes. Ils en sont, qui soient renvoyés dans leur pays, ils s'en sont à 500 000. Donc on voit un peu cette politique absolument violente qu'il y a par rapport à cette police. Donc ça, c'était le premier point, c'était la police. Le deuxième point, c'est la politique dans les universités qui sont sous haute surveillance, le savoir mis au service de la politique, la liberté d'expression des étudiants bafouée. Donc on sait bien aussi que tous les étudiants ou les universités où il y a eu des manifestations par rapport aux droits des populations palestiniennes sont absolument sanctionnés, que les étudiants sont mis en danger, c'est-à-dire on leur dit de rentrer chez eux, que les universités n'ont plus de crédit. Enfin ça, vous en avez aussi parlé. Il y a quand même aussi une mobilisation étudiante et Amnesty International Amérique a lancé sa campagne « Halte à la répression, protégeons le pouvoir des étudiants ». Donc ça, c'est un tout petit peu de contre-pouvoir, il faut aussi en parler. Mais pour Trump, l'université, c'est vraiment quelque chose de très dangereux et qu'il avait décidé, Trump et son vice-premier président, Vance,
vice-président,
qui est,
oui.
Voilà, vraiment de mettre ça à plat, parce que c'est là qu'ils considèrent qu'il peut y avoir toute une possibilité de gens qui vont s'opposer à lui. Donc le savoir scientifique est bâillonné. Trump multiplie les mesures pour cloisonner la science et l'éducation dans une vision trumpiste du monde, bien entendu. Le changement climatique ou les politiques de diversité ne font pas partie du vocabulaire officiel et elles sont effacées par le pouvoir. Alors, on avait rencontré le chercheur ou le professeur Brian Sandberg qui témoignait de la censure. Lui, il travaille par rapport au climat et il dit « je vais plus pouvoir avoir de bourse, je vais plus avoir de crédit ». Alors, le Washington Post avait émis une liste de mots interdits. Je pense que là, ça doit encore être plus important. Interdit dans la recherche universitaire, interdit dans les livres aussi. Donc, c'est les mots femme, diversité, antiracisme, changement climatique, genre, qui sont accusés de propager une idéologie wokiste. Et des milliers de pages web et de données sur la santé et le climat ont été supprimées des sites web gouvernementaux, ainsi qu'une vague de coupes budgétaires ou de licenciements qui visent des organismes de recherche. Alors, juste deux mots, enfin deux chiffres plutôt. 8000 visas étudiants révoqués par le département d'État pour démêler avec la justice pour activités criminelles. C'est donc ceux qui ont manifesté, ceux qui sont pas d'accord, ceux qui consultent des livres qu'on n'a pas le droit de consulter. Et 220 millions de dollars payés par l'Université Columbia pour arrêt des poursuites pénales. Donc là aussi, on remet dans le petit, on va dire, dans la bourse de Trump. Donc c'est quand même aussi tout à fait dommage. Et le directeur général des programmes américains pour la liberté d'expression chez PEN America, Jonathan Freeman, dit « Le gouvernement américain contrôle la manière de s'exprimer, d'écrire, d'enseigner et d'apprendre. En clair, il contrôle notre façon de penser. » Voilà. Donc, troisième point, la croisade de Donald Trump contre le genre. Les minorités dans le viseur. Donc ça, c'était déjà pendant le premier mandat, mais ça a continué. À son investiture, le président américain signait déjà une de ses mesures phares, désormais entérinée par la Cour suprême, l'interdiction de la mention X sur les passeports américains. Exclusion des personnes trans de l'armée et des compétitions sportives. Transfert des femmes trans détenues dans les prisons pour hommes. Ça doit être excessivement sympathique, ça, quand on est une femme trans, même si on a eu maille à la justice, se retrouver dans les prisons pour hommes. Et retrait, bien entendu, d'importants financements fédéraux pour les hôpitaux qui proposaient des traitements hormonaux ou chirurgicaux. Tout est fait pour effacer les personnes trans de la vie publique. Les agences ont été priées de retirer les agences fédérales de tout contenu promouvant une idéologie de genre. une large et un large éventuel d'informations et de données relatives aux droits et à l'histoire des personnes trans, à la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à l'avortement, ont tout simplement été supprimés des sites de certaines agences fédérales. Dominique, nous leur en parlait la dernière fois, les docteurs qui se retrouvent avec plus du tout de données sur Internet, alors qu'ils étaient encore la veille.
Je t'interromps juste pour une petite information intéressante pour nos auditeurs et auditrices. Réécoutez le dernier podcast de notre dernière émission du mois de janvier. Dominique a longuement, effectivement, expliqué ce que ça représentait pour l'accès à la santé pour les populations aux États-Unis.
Donc, aussi un chiffre là, 45 millions, c'est le nombre des femmes qui se sont vues refuser l'accès à la contraception avec les coupes budgétaires de l'aide américaine. Voilà, c'est tout à fait sympathique, même si, effectivement, il y a toujours les textes qui disent qu'on doit pouvoir prendre ses décisions pour son corps et sa sexualité, mais on ne sait pas comment aux États-Unis, c'est très compliqué. Donc, quatrième point, les médias, les ONG et la justice muselée, des contre-pouvoirs affaiblis. Alors, le droit de l'information et la liberté de la presse est attaqué. Des journalistes étaient déjà pointés comme les ennemis du peuple lors du premier mandat de Donald Trump. Mais depuis un an, la presse libre fait face à un état de siège permanent menée par le président. Alors on se rappelle déjà Société de presse qui a été bannie du bureau ovale parce qu'il refusait de mettre Golfe d'Amérique pour le Golfe du Mexique. Là c'était tout à fait au début. Moi j'avoue en avoir un peu ri, mais quand on voit toute la suite ce qui se passe,
il y a une intention derrière. Hein,
c'est carrément tout à fait calculé et on va dire oui calculé. C'est vraiment le terme. Donc il a mis un de ses copains, Brendan Carr, au niveau de l'agence indépendante de régulation des médias, c'est l'équivalent de l'ARCOM qu'on a nous en France. Donc Brendan Carr a mis fin à toute initiative en matière de diversité, d'équité, d'inclusion, a rouvert une plainte contre CBS News et aussi contre des chaînes de télé. Donc c'est absolument pas du tout quelque chose qui va être équitable. Le journaliste Mario Guevaro, qui couvrait les manifestations contre les politiques migratoires, lui, il a été expulsé vers son pays d'origine, le Salvador, après plus de 20 années de carrière aux États-Unis. Des médias publics internationaux sont démantelés. La chaîne Voice of America, la deuxième en termes d'audience mondiale, peine à survivre après le licenciement de plusieurs centaines de journalistes. Et là, il y avait un article aussi qui disait qu'il y avait beaucoup de journalistes de cette chaîne qui étaient des gens qui venaient de l'étranger, donc qui avaient en plus une autorisation de travailler, mais qui pouvaient être carrément arrêtés du jour au lendemain. Donc, ils se trouvaient dans des situations très compliquées, quoi. Donc, deux chiffres aussi. 174 journalistes agressés, c'est le double que 2024, et 15 milliards qui a été demandé par le gouvernement de Trump contre le Times par rapport au dossier Epstein. Une fois de plus, il faut des sous pour payer et être à peu près... Donc oui, ce que je veux dire aussi, Didier me monte la montre.
Ben oui, parce que le cinquième point, on l'attend toujours.
Non, mais parce
que
ça
va être l'heure de la pause musicale, madame.
On va avoir la pause musicale tout de suite après. Donc quand même, voilà. Juste pour que les gens se rendent compte bien que qu'est-ce qu'on entend des États-Unis tout de suite, c'est la porte grande ouverte à la sphère MAGA et aux influenceurs pro-Trump qui posent des questions complaisantes tout en essayant d'assujettir les médias traditionnels. Le ministère de la Défense américain ne souhaite plus souffrir d'aucune critique à son égard en imposant aux journalistes la validation de toute publication le concernant. C'est-à-dire que les questions, elles sont complètement tronquées. Des centaines de journalistes qui refusent ces pratiques ont dû rendre leur accréditation et quitter le Pentagone. Donc voilà, on en est à ces choses-là. Donc la société civile est affaiblie, les ONG sont aussi dans le collimateur du gouvernement de Trump, l'indépendance de la justice est ciblée, ça on vous avait déjà parlé il y a quelques temps de dire que les juges étaient vraiment sur la sellette, et ceux qui dénoncent l'administration Trump sont vraiment complètement limités. Pour l'instant, ils ont encore une toute possibilité d'exister, mais c'est de plus en plus fragile. Et le droit international, je termine, nous sommes au cinquième point, Claire-Lise. Donc, les lignes rouges franchies avec Gaza, on vous rappelle, donc, la première idée de Trump, c'était la Riviera du Moyen-Orient, mais c'est aussi de laisser les armes partir vers Israël alors qu'ils ont signé comment ça s'appelle, le traité du commerce
sur le commerce des armes.
Sur le commerce des armes, et qu'il se gêne pas pour mettre aussi ses entreprises, Boeing ou Lockheed Martin, pour tirer profit du génocide, parce qu'il y a beaucoup de passages financiers avec Israël. Les sanctions contre les juges de la Cour pénale internationale qui met à mal toute cette justice internationale. Voilà. Et je vais terminer. L'ordre mondial mis en cause. Alors voilà, qu'est-ce que ça va être, l'ordre mondial mis en cause? Ça va être les dernières choses qui s'est passé au niveau du Venezuela avec l'enlèvement de Maduro. Et la possibilité d'après de faire ce qu'il veut au Venezuela, prendre le pétrole et mettre sa force dans ce pays sans aucune demande des habitants, un minimum. Donc tout ça, c'est quand même très 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 compliqué, et on voit que c'est carrément tout un schéma qui va vers un autoritarisme au niveau des États-Unis. Donc il y a aussi un peu de contre-pouvoir. L'avenir se joue dans notre capacité de nous organiser et il dépend de notre résistance. Je vais arrêter là. Vous voyez un tout petit peu, j'ai des collègues à côté qui sont désespérés. Ouais, vous allez avoir...
T'as eu deux fois plus de temps de parole.
Oui, mais mon article est beaucoup plus long et beaucoup plus...
Oui, et t'avais dit que c'était un petit truc. Hein.
Bon, on va tout de suite passer à la première pause musicale.
Et la pause musicale correspond à ce qu'on vient de dire.
En rapport, bah, on en reparle juste après.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice, neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones, and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our
chance of
ice out now.
Our city's heart and soul persists through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm
Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. In the winter of 26,
we'll take a stand for this land and the stranger in our midst.
We'll remember the names of those who died
on the streets of Minneapolis.
We'll remember the names of those who died
on the streets of Minneapolis.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission. Alors, on vient d'entendre Bruce Springsteen, effectivement, une chanson qu'il a composée là très récemment, et qui est très facile à trouver sur YouTube, qui s'appelle Streets of Minneapolis, en référence à ce que vous a dit Claire Lise et aux meurtres qui ont eu lieu du fait des exactions de l'ICE. Et alors, j'ai juste traduit le refrain, qui est repris plusieurs fois dans la chanson, voilà ce qu'il dit. « Oh Minneapolis, j'entends ta voix. » Chantant dans le brouillard ensanglanté, nous résisterons pour ce pays et les étrangers de notre entourage, qu'ici chez nous, ils ont tués et dispersés lors de l'hiver 2026. Nous nous souviendrons de ceux qui sont morts dans les rues de Minneapolis. Voilà ce que chante Bruce.
Voilà, et il a écrit au lendemain de la mort d'Alex Pretty, dont c'est on ça. Parlait tout voilà. à l'heure.
Tu disais c'est qu'il y avait plein de vues sur YouTube, enfin que ça avait été.
Et il détaille dans la chanson, il détaille son opposition à tout ce que vous venez de vous citer et dites par rapport aux exactions d'extrême droite de l'administration Trump, mais ça aurait été trop long à vous traduire. Voilà. Donc, pendant que j'ai la parole, et puis moi, comme je ne vais pas beaucoup parler ce soir, je vais la garder pour un petit article que j'ai trouvé là aussi dans la chronique. Abonnez-vous à la chronique, c'est sur le site d'amnesty.fr.
Nouvelle chronique en plus.
Nouvelle chronique, voilà. Et ça s'appelle Danemark Kosovo, prison en location. Alors, c'est quoi ce titre ? Le Danemark a trouvé le moyen de se débarrasser des étrangers emprisonnés dans ses geôles. À partir d'avril 2027, les personnes condamnées à l'expulsion pour des infractions ou délits mineurs, vol, trafic de drogue, iront croupir dans les prisons de Djiland, aux environs de Pristina, la capitale du Kosovo. À 2000 km de Copenhague, une fois leur peine purgée, elles seront transférées dans leur pays d'origine ou renvoyées au Danemark avant d'être expulsées. Ce dispositif est le fruit d'un accord de coopération conclu en 2022 et ratifié par les députés kosovars en mai 2024. Il prévoit l'allocation de 300 places de prison pour une durée de 10 ans. En échange, le petit pays des Balkans, l'un des plus pauvres d'Europe, recevra 200 millions d'euros, 10 fois plus que le budget annuel de son ministère de la Justice. Les lois danoises y seront appliquées avec un gouverneur danois. Mais bien sûr, le personnel sera kosovar, a précisé Ismaël Dibrani, directeur des centres pénitentiaires du Kosovo. Ce système pourrait toutefois priver les migrants, de certains droits fondamentaux, notamment celui de faire appel d'une condamnation d'expulsion. Chercheuse kosovare en relations internationales et militante des droits humains, Donika Emini fustige cet accord qui transforme les Balkans en dépotoir des pays riches qui font ici ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. En décembre 2025, le Kosovo a confirmé que la Belgique explorait elle aussi l'utilisation de ces établissements pénitentiaires. Voilà. On met les migrants soupçonnés d'être des délinquants mineurs, on les envoie au Kosovo pour purger leur peine, c'est quand même formidable. Voilà, tout de suite, je vais rendre la parole, parce qu'on a encore plein de sujets, à Claire-Lise, qui va vous parler, je crois, des droits de l'enfant.
Oui, je vais vous parler des droits de l'enfant, et je m'appuie sur, en fait, sur des textes d'Amnesty, mais aussi sur des rapports, le rapport annuel de l'UNICEF, hein, qui est un organisme qui s'occupe effectivement du bien-être des enfants dans le monde, et souligner quand même qu'en 2025, ça a été une année de sombres records, que ce soit à Gaza, au Soudan, en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines, au Sri Lanka, des millions d'enfants ont été confrontés à des violences et aux conséquences du changement climatique et de l'escalade des conflits armés. Il ne faut pas oublier, nous dit Adeline Hazan, présidente d'UNICEF France, qu'au milieu de ces fractures, les enfants doivent rester des enfants, à protéger, à soigner, à éduquer, à écouter, quel que soit leur pays, quelle que soit leur histoire. Et donc, je vais revenir maintenant un petit peu plus aujourd'hui sur les droits de l'enfant, et notamment en France. Donc, UNICEF France a lancé l'Observatoire des droits de l'enfant pour centraliser sur une plateforme les données fiables relatives à 12 thématiques. L'éducation, la santé, la protection, le climat, la pauvreté, la démographie, la santé mentale, le numérique, etc. 76 indicateurs clés pour dresser une photographie inédite et consolidée de la situation des enfants en France. Donc je vous invite à aller voir sur le site UNICEF Action Humanitaire Observatoire des droits des enfants. C'est très détaillé, je voulais en imprimer des pages, et puis en fait le rapport il fait quand même 52 pages hein, d'UNICEF France. Donc il y a quand même des choses avec des chiffres qui sont très très intéressants. Dire quand même que 14 millions d'enfants en France subissent la pollution, la crise du logement, et sont les précarités sans que leurs droits ne soient suffisamment pris en compte par les mairies. Un collectif d'élus propose la création d'une délégation municipale aux droits des enfants pour mieux prévenir les violences périscolaires, lutter contre la pauvreté infantile, améliorer l'accès à la santé et organiser la participation des enfants aux décisions locales. Donc ça, c'est Parlons politique, politique locale, municipale 2026, créer une délégation municipale dédiée aux droits des enfants pour prévenir les violences, la pauvreté et les risques sanitaires. Voilà. Donc vous pouvez essayer de rechercher aussi sur Internet. Alors, toujours en France, parce que moi je ne lis pas tout, il y a aussi un article, alors là c'est par rapport, c'est un article qui est paru dans Le Monde, sur l'imprescriptibilité qui est demandée par la quasi-totalité des victimes d'infractions sexuelles et surtout d'inceste. Donc c'est la nécessité de la prescription de l'action publique qui ne fait plus consensus et qui doit être interrogée pour tous les crimes, estime Marie-Pierre Porchy, magistrate honoraire dans une tribune du Monde. Voilà. Et je vous invite aussi à regarder un documentaire, « Violence sexuelle à l'école, silence dans les rangs ». Lorsqu'une prof découvre qu'un de ses collègues abuse sexuellement de ses élèves, elle alerte sa hiérarchie. Malgré des démarches répétées, elle attendra près de 3 ans avant que l'éducation nationale ne réagisse. C'est un scandale qui est loin d'être exceptionnel. Donc là, c'est France 3 en La France en vrai, violence sexuelle à l'école, silence dans les rangs. Donc c'est à regarder sur les replays de France
Télévision.
Et aussi quelque chose d'autre qui existe en France, donc c'est le maillot pour alerter. L'Enfant Bleu lance un dispositif innovant contre les violences avec un QR code intégré au maillot. Les enfants victimes ou témoins de violences peuvent le scanner pour accéder à la plateforme sécurisée de l'Enfant Bleu où ils trouveront toutes les ressources nécessaires pour parler à une psychologue ou à un juriste de l'association et recevoir un accompagnement adapté. Donc là c'est pareil, vous tapez sur internet « maillot pour alerter l'Enfant Bleu » et vous trouverez tout ce qui est autour de la mise en place de cette action. Ensuite, le Défenseur des droits publie une étude consacrée à la prise en charge des jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance. Elle met en lumière des inégalités importantes dans les modalités d'accompagnement ainsi que des disparités territoriales. Vous savez que les mineurs non accompagnés qui sont reconnus mineurs en France sont protégés par l'ASE jusqu'à 18 ans et après leurs 18 ans, ils peuvent avoir un contrat jeune majeur jusqu'à leurs 21 ans. Mais tous ces jeunes n'en bénéficient pas. Certains, comme ceux qu'on laisse traîner là à l'hôtel Formule 1 à Évreux, sans être scolarisés, sans travail, sans voilà, quand ils vont avoir 18 ans, quelques-uns auront un contrat jeune majeur, mais pour la majorité des autres, ils se retrouvent sans rien, plus d'hébergement. Et pour l'obtention du titre des séjours, si les démarches n'ont pas été faites avant,